Il montre le bon côté, mais aussi les problèmes. Et on se sent plus à l'aise, nous les humains, hein, parce qu'on sait que bah, on n'est pas parfait et que on a des bons côtés et des mauvais, et que Dieu nous prend tel qu'on est et il essaie de nous faire progresser. Ben, c'est déjà plus difficile, mais... Donc on avait un petit résumé pour récupérer l'endroit où on était resté la dernière fois. J'avais dit que l'histoire du viol de Tamar était longue et très détaillée, et que en fait l'idée de l'auteur c'était d'insister sur l'horreur de la situation. Et je m'étais posé la question, mais pourquoi? Ben, si on se reporte 3000 ans en arrière, c'était à peu près hein, la date, c'était pas forcément considéré comme une catastrophe dans les autres pays. Et d'ailleurs, Tamar le dit très bien, ce n'est pas admissible en Israël. Et là, c'est clair, elle qui était à la fois fille de David et d'une princesse de Guéchour, elle sentait bien la différence de mentalité entre Israël et les pays païens qui l'entouraient. Elle était, c'est très bien d'ailleurs qu'elle l'ait reconnue, qu'elle l'ait ressentie. Et donc, on est choqué par tout le stratagème d'Amnon, fils aîné du roi, par sa violence et la détresse aussi de Tamar après coup. Amnon, vous vous souvenez, je résume pour ceux qui n'ont pas entendu le début, avait cherché à contacter sa demi-sœur, mais vous savez, les filles, même royales, étaient à part, dans une maison à part. Et c'est son cousin, Jonadab, qui était très rusé et qui lui avait dit comment faire, tu joues la comédie, tu fais le malade, ton père va autoriser Tamar à venir te faire des gâteaux, etc. David, lui, ne soupçonne rien. C'est curieux d'ailleurs. Il avait quand même vécu, David. Et bah, Tamar non plus, du coup, ne soupçonne pas qu'il y a un stratagème derrière. Jonadab, on s'était posé la question la fois dernière, est-ce qu'il est conscient que ce petit jeu théâtral déboucherait sur un viol? Alors là, le texte ne permet pas de répondre. Est-ce qu'il a simplement voulu aider son copain? Son cousin et copain. Est-ce que c'était un homme profondément rusé qui savait bien où ça déboucherait, mais lui méprisait les femmes, donc il n'en avait rien à faire? Est-ce qu'il proposait une solution pour légitimer un mariage après cette relation? On n'a pas la réponse. Et vous savez, parfois dans la Bible, il n'y a pas de réponse. Et quelquefois, ça nous permet aussi à nous de mieux nous identifier parce qu'on peut être dans un des trois ou quatre cas possibles. Et on avait passé un petit moment avec les ados à dire attention aux conseils que vous recevez par les copains, les amis, etc. Surtout quand il y a un petit stratagème à la clé, hein, pour contourner une interdiction des parents ou un problème avec les profs. Les amis vous aiment bien, ils veulent vous aider, mais c'est pas eux qui paieront les conséquences. Hein, et parfois, les conséquences sont graves. Un conseil qui peut sembler innocent, oh bah tu imites la signature de ton père, ou bien tu fais ceci, ou tu dis cela, tu dis que tu étais malade, etc. Ce genre de conseil peut avoir des conséquences à long terme, ne serait-ce que la perte de confiance des profs ou des parents. Donc voilà, on avait parlé de ça la dernière fois. Donc attention aux conseils qu'on reçoit. Comme on dit, les conseilleurs sont pas les payeurs. Hein, si vous écoutez des mauvais conseils, c'est vous qui paierez les conséquences, c'est pas votre conseilleur. On avait parlé de la vie brisée de Tamar, violée puis rejetée avec violence, hein, et puis de la colère meurtrière d'Absalom. C'était les deux conséquences. C'était grave quand même. Alors ce petit jeu de je fais le malade pour que ma demi-sœur vienne me faire des gâteaux, etc. Oui, ça s'est vraiment mal terminé. Hein. Les conséquences ont été épouvantables. Alors qu'on aurait pu dire bah écoute il a joué un peu la comédie, c'est pas bien grave. Bah oui, mais les conséquences ont été graves. Et ça, je pense que Jonadab, est-ce qu'il en était conscient ou pas? On ne sait pas. Et on avait vu un peu comment Tamar s'est défendue. Quand on dit que la Bible est misogyne, un texte comme ça nous montre que ce n'est pas vrai. Parce que Tamar est mise en valeur, on montre comment elle a des arguments, elle est intelligente, elle a des arguments religieux et moraux. Hein, d'abord, elle dit, mais ce n'est pas admissible en Israël. Ensuite, il dit, ne commets pas une telle folie et tu passeras pour un fou en Israël. Et le mot fou dans la Bible, c'est Nabala, je crois, qui parle de quelqu'un qui est qui donne un trouble extrême à la société. C'est pas simplement, oh, t'es fou, comme on dit nous, hein. C'est beau que ça va beaucoup plus loin. Et puis, elle pense à elle aussi, où irai-je avec mon déshonneur ? Elle va même jusqu'à proposer qu'il la demande en mariage à David, que peut-être pour une demi-sœur, ça pourrait être autorisé par le roi. Amnon, lui, on a vu qu'il était complètement insensé, sans conscience, sans moralité. Alors c'est curieux, parce que David était son père, et puis sa mère était une juive, bon chic, bon genre, enfin, il n'y avait pas de souci. Comment ça se fait qu'il avait pu déboucher sur une attitude pareille, sans conscience, sans principe, sans moralité ? Aucun souci de la loi, pas le moindre. Alors qu'il la connaissait, hein, à l'époque, la loi était lue et relue, etc. Alors, il est parti d'une passion égoïste, un amour fou, qui s'est transformé très rapidement en haine et en rejet. Mépris total de la fille, à tel point même qu'il va verrouiller les portes pour se protéger de ses cris et de ses gestes de deuil. Vous savez, à cette époque, on déchirait les vêtements, etc. On se tapait sur la tête. Enfin, c'était des gestes de deuil. Et bon, alors, il ne veut pas entendre ça, il verrouille les portes. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait comme sentiment dans son cœur ? Ça fait peur. Et puis, maintenant, je voudrais qu'on regarde un petit peu la réaction d'Absalom. Absalom, lui, il va faire preuve de sagesse. Donc, c'est le frère total de Tamar et le demi-frère, donc, d'Amnon. Troisième dans la ligne de succession. Le deuxième, on n'en parle pas. Possible qu'il soit mort en bas âge. Donc, c'est le troisième fils. Donc, voilà, c'est normalement, si Amnon ne succède pas à David, ce serait Absalom. Bien qu'on ne soit pas toujours très sûr que ce soit officiellement le cas en Israël à l'époque, mais c'est une possibilité. Alors Absalom, il fait preuve d'une certaine sagesse. D'abord, il va s'informer. Moi, je le trouve raisonnable et intelligent, Absalom. Il écoute, il dit, mais attends, est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé, hein? Et il s'assure qu'il a bien compris la situation et il va lui conseiller le silence parce qu'il ne veut pas de scandale public. Pour la famille, ça jetterait le discrédit sur toute la famille royale. Allons, voilà. Ce n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est rationnel humainement. Et puis, il finit par lui dire « ne se soucie pas de cette affaire ». Alors là, on trouve ça un petit peu gros quand même. Hein. Après ce qu'elle a vécu, lui dire « t'en fais pas ma cocotte », c'est un petit peu... Bon, ça, c'est la traduction moderne. « Ne te soucie pas de cette affaire, ne la prends pas trop à cœur ». Oui, bon, il n'est pas à sa place, hein. Mais il fait tout pour l'apaiser, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi. Et par contre, quand il dit « ne la prends pas trop à cœur », on sent que c'est lui qui va prendre les choses en main. Et je crois que c'est là un peu la racine des problèmes d'Absalom. Absalom est intelligent. Il est stratège. Il réfléchit. Et il voit plus loin que le bout de son nez. Et que le bout du nez des autres aussi. Et il sent qu'il ne faut pas faire de scandale. Mais lui, il a décidé de prendre l'affaire en main. Alors d'abord, il recueille sa sœur, ce qui est extrêmement gentil, parce qu'une fille déshonorée, parfois elle se faisait mettre à la porte, même si ce n'était pas de sa faute. Et c'est encore vrai dans beaucoup de civilisations aujourd'hui, hein, 3000 ans après. Il y a même un excellent film, je crois, qui a été fait là-dessus il y a quelques années. Il la recueille chez lui, il ne s'occupe pas si elle est déshonorée ou pas. Et ça, c'est un très bon point chez Absalom. Normalement, elle pouvait plus se marier avec quelqu'un de bien, mais lui va en prendre soin. Il se montre d'une certaine sagesse. Je pense qu'il a une sagesse humaine, Absalom. Il évite le scandale, il est attentionné, il est rassurant. Et puis, il sous-entend, je m'en occupe. C'est plus ton affaire, mais moi, je vais m'en occuper. Et l'auteur ajoute, Absalom ne dit rien à Amnon. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est quand même son, même si c'est son demi-frère, c'est quand même son demi-frère. Il ne dit rien à Amnon. Il ne dit rien. Bon, mais il n'en reste pas là. Au fond de sa tête, au fond de son cœur, il prémédite son coup. Il ne dit rien. Et ça ne vous fait pas penser à un personnage biblique qui avait répondu à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il y a un petit peu du sang de Caïn, là, je trouve, moi. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Après tout, c'est son problème. C'est moi qui vais le régler. Mais il ne dit rien à Amnon. Et là, je pense qu'il a eu tort. Il aurait dû le confronter, c'était quand même son demi-frère. De prince à prince, ils pouvaient quand même se parler. Mais pour Absalom, et là on va commencer à découvrir le côté sombre d'Absalom, malgré son intelligence, sa sagesse, etc., et sa bonté pour sa sœur, pour lui la vengeance est un plat qui se mange froid. En plus, peut-être il soupçonnait qu'on pourrait l'accuser de jalousie, parce que normalement c'était Amnon, l'héritier. Qui sait ? Comme le conseiller d'Amnon, il fait preuve d'une habileté extrêmement dangereuse. Intelligent, mais une intelligence dangereuse. Parce qu'il a un plan. Absalom est intelligent, il a un plan, mais pour plus tard. Et la Bible dit, mais il détestait Amnon parce qu'il avait abusé de Tamar, sa sœur. Et là, l'auteur nous met la puce à l'oreille. Il dit rien, mais il le détestait. Et ça, c'est pas la solution qu'envisage la loi, ni la loi de l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, hein. Mais il a préféré rester là-dessus. Je ne dis rien, mais je le déteste. Et quelque part, hein, je l'aurai un jour. C'est embêtant. Et là, on découvre le problème qui est à la base de la révolte d'Absalom. Et c'est ça qui va le conduire au meurtre, à l'exil et à la révolte contre David. Vous voyez, c'est pas juste l'amertume, la colère contre ce qu'a fait Amnon, au lieu d'essayer de la régler. Il y avait des hommes religieux dans le pays qui pouvaient appliquer la loi. David aurait pu être convaincu par un prophète d'appliquer la loi. Alors, c'était quoi l'application de la loi ? C'était être retranché du peuple. Donc, certainement l'exil ou la mort. Je ne suis pas sûre que David aurait eu le courage d'aller jusque-là, mais l'exil, certainement, ça aurait été une solution. Et de, bien sûr, ne pas le considérer comme héritier et comme successeur. Et c'est peut-être là que David coinçait un petit peu. Alors maintenant, la réaction de David. Alors là, on en avait parlé, je crois, un petit peu la dernière fois, j'étais choquée. Le roi David a appris tout cela. Bon, au moins, il est au courant. Et il fut très fâché. Ah oui, c'est tout ? Enfin, c'était lui qui était responsable de la justice. Et il fut très fâché. Alors moi, ça me fait penser à un autre passage de la Bible. C'est Élie, vous vous souvenez ? Élie ? « Mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien. » Oui, ils se comportaient plutôt mal, les enfants d'Élie. Hein, c'était grave. Mais tout ce qu'il a trouvé à leur dire, « Mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien. » Ben voyons, ça fait mal quand même de la part d'un homme de la stature d'Élie. Et puis Samuel, le peuple lui a dit, « Écoute, toi, t'étais bien, mais tes enfants, on ne peut pas compter sur eux pour te succéder. » Bon, c'est un problème. Il fut très fâché, il s'est arrêté là. Juge, roi et père, il avait trois fois l'autorité. C'est quand même pas mal, hein. On n'a plus cette autorité aujourd'hui. Juge, roi et père. Il aurait dû convoquer Amnon et appliquer la loi, la mort ou l'exil, c'est-à-dire retrancher du peuple. Alors d'autres traductions ajoutent, mais il ne fit pas de reproche à Amnon. Il est fâché, mais il ne fait pas de reproche à Amnon. Ben voyons, même pas de reproche. Élie avait au moins dit, mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien. Mais là, lui, non. On a du mal à comprendre David, là. Hein. Quand tu vous pensais que quand Nathan lui a raconté l'histoire du mouton, il était prêt à se mettre, il s'est mis en colère et prêt à tuer celui qui avait volé le mouton au pauvre. Pour un vol de mouton. Et le viol de sa fille, quoi. Il est juste fâché. Et il ne fait pas de reproche à Amnon. On a un problème, là, quand même, hein. Alors, bien sûr, il y a des possibilités. C'était le fils aîné, l'héritier du trône. L'affection, peut-être, pour son fils aîné. Mais, moi, je penche pour une autre solution, mais je ne suis pas la seule, hein, j'ai vérifié avant. Je n'invente rien. David est certainement paralysé par sa propre conduite. Comment discipliner ses fils s'il sait qu'il a fait pire qu'eux ? Il a tué un homme innocent. Eux, ils n'ont pas encore. On n'en est pas encore à ce stade-là. Lui, il a fait ce qu'il voulait quand il voulait. Lui aussi, il a usé d'un stratagème pour pouvoir tuer Uri, qui était totalement innocent. Un homme fidèle, un homme droit. Alors, il ne se sent pas à l'aise pour faire quoi que ce soit après le viol de Tamar. Et même après le meurtre d'Amnon. Par Absalom. Parce que lui aussi, il a un meurtre sur la conscience. Alors là, on aborde un problème qui est très difficile pour les humains, qu'on soit chrétien ou pas, parents, amis, qu'on soit jeune ou vieux, responsable dans l'église ou dans la société, etc. La tendance humaine va toujours être d'évaluer la faute des autres par rapport à ce qu'on a fait nous. C'est humain. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal pour un humain. Et c'est pas ce que Dieu demande. Alors, quand je dis évaluer, ce n'est pas juger. Hein? Je viens de lire un excellent article, d'ailleurs, dans Promesse, où ils expliquent la différence. Juger, c'est condamner quelqu'un, il est comme ça, il restera comme ça, il n'y a aucune solution, paf, paf, je l'ai complètement cadré, voilà. Évaluer, c'est pouvoir dire, bah, c'est bien ou c'est mal, c'est ce que font les profs avec les copies des élèves, etc. C'est pas du jugement. Ça peut se transformer en jugement parfois avec certains profs, mais je parle pas de ça. Je parle en général, hein, c'est juste évaluer si quelque chose convient ou ne convient pas. Et on ne doit pas évaluer une action en fonction de soi-même. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça, en fonction de ce qu'on a fait ou pas fait, mais l'évaluation doit se faire en fonction de ce que veut Jésus. Et vous savez, j'aime bien ces petits bracelets. Qu'est-ce que Jésus ferait, hein? What would Jesus do, là, les petits bracelets géniaux. Si ça peut aider à se rappeler, voyons, je suis dans une situation collante, j'ai des problèmes, etc. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et non pas, bah oui, moi, ma vie, etc. Et je vais vous donner des exemples, hein, pour les jeunes comme pour, les pour nous tous. Ma copine a des antisèches. Bon, j'espère que vous savez toujours ce que c'est que des antisèches. Hein. À moins que ça ait changé de nom avec les nouvelles générations. Les nouvelles techniques, oui. Ma copine a des antisèches à tous les contrôles. Oh, moi, je l'ai fait une fois, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Alors, je lui dis rien. Dieu m'a pardonné, je l'ai fait une fois, alors, bon, bah, alors je lui dis rien. Mon fils est insupportable en classe. Mais moi, à son âge, j'étais pire. Alors, je dis rien. Ma fille dépense son argent n'importe comment. Non, c'est pas vrai, Coco. Mais je faisais pareil à son âge. Mon ami chrétien, il ment souvent pour se tirer d'affaire au travail. Oh, ça m'est arrivé une fois aussi. Alors, je dis rien. Vous croyez que c'est ce que Dieu demande? Alors, il y a aussi l'inverse. Alors, moi, j'ai connu ça dans mon église. C'était une ADD, désolée. J'ai connu ça dans mon église. Il y avait des vieilles dames qui, dans leur jeunesse, avaient fait les 400 coups. Alors, je ne vous fais pas de dessin. Et alors, elles allaient complètement dans l'autre sens. Elles évaluaient par rapport à ce qu'elles avaient fait. Elles étaient très, très mal conduites, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, alors, elles évaluaient par rapport à elles. Donc, s'il y a une fille qui avait une jupe un tantinet trop courte, on tirait à vue, là. Parce qu'on ne sait jamais, elles peuvent devenir ceci ou cela. Oui, il y a les deux. Mais c'est toujours par rapport à ce qu'elles avaient fait. Hein? Moi, je suis tombée dans tel et tel péché, etc. Alors, elle a la jupe trop courte, ou elle a un vernis à ongles trop comme si, parce qu'à l'époque, il fallait pas en mettre. Et ainsi de suite, voilà. Ben oui, mais c'est pas mieux d'évaluer par rapport à soi, que ce soit d'un sens ou de l'autre. La solution, c'est de dire qu'est-ce que ferait Jésus? Qu'est-ce que dirait Jésus? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Hein? Et j'ai réfléchi à ça. Et c'est pas facile. Parce que bon, si on a fait des bêtises, on se sent un petit peu gêné de reprendre quelqu'un. Comme je disais tout à l'heure, hein, mon ami chrétien ment pour se tirer d'affaire au travail. Moi, ça m'est arrivé une fois, donc je peux rien dire. Ah, non, je pense que la solution dans cette perspective, c'est non pas de juger, mais de prévenir. Et peut-être de témoigner, de dire, écoute, tu sais, machin chose, ça m'est arrivé une fois de mentir au travail, et j'ai regretté, j'ai demandé pardon à Dieu. Ça, les conséquences ne sont pas bonnes. Ça ne plaît pas au Seigneur. Voilà. Hein? Il ne s'agit pas de tirer à vue, mais il s'agit vraiment de dire, même profiter de cette expérience négative. Je pense que ces petites grand-mères qui étaient vraiment... je vais dire empoisonnante parfois, si elles avaient pu dire ça aux jeunes filles qui visiblement prenaient un mauvais chemin, de dire, bah, écoute, moi j'y suis allée dans ce mauvais chemin, puis je suis allée très loin, et puis j'ai regretté, puis j'étais malheureuse, j'ai failli me suicider, etc. Bon, je cite des cas que j'ai connus. Hein? C'est mieux que de tirer à vue parce que la jupe est un centimètre trop court. Voilà. Au contraire, en témoignant du pardon de Dieu pour nos péchés, on peut aider les autres. Et là, c'est là que David s'est planté. Pourquoi pas aller voir Amnon ?
Il devait être plus ou moins au courant, vous savez, dans les palais. Vous avez vu un peu à la cour d'Angleterre, comment les infos circulent ?
Ça devait être encore pire à l'époque. Le téléphone israélite devait bien marcher. Et c'était simple pour David de dire à Amnon, « Attends, j'ai fait une bêtise un peu comme la tienne. En plus, ça m'a amené à tuer un homme. Arrête, arrête, demande pardon, repens-toi. » Il y avait une solution. Ah là là, prévenir, évaluer, dire la vérité dans l'amour en fonction de ce que Jésus enseigne. Ça n'a rien à voir avec juger, condamner, mépriser, jeter la pierre, etc. Il y avait une solution. Mais moi, je comprends aussi David. Il était coincé entre sa souffrance, même s'il savait que Dieu l'avait pardonné. Il s'est rappelé aussi de la prophétie de Nathan, vous vous souvenez ? Qui disait, ben voilà, toi, tu as péché en secret. Maintenant, ça sera, voilà, il se passera. Il y aura des meurtres, il y aura des... Pauvre David, c'était pas évident du tout pour lui. Et nous, c'est facile d'en parler aujourd'hui, mais ça devait pas être facile en tant que roi. Quelle solution trouver ? D'autant plus que lui, il n'avait que ça, hein, de la parole de Dieu. Nous, on en a beaucoup plus. Et Jésus est venu entre-temps. Alors, on va lire le verset 23 à 39. 23 à 39. Oui. Voilà, 2 Samuel 13. 2 ans après. Ah, vous vous rendez compte ? 2 ans après. 13, pardon. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs, il tondait les moutons, à Baal Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla trouver le roi et lui dit, « J'ai chez moi les tondeurs, accepte, roi, de venir chez moi avec les gens de la cour. » Waouh, c'était beaucoup, hein. Le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, je t'en prie, nous n'irons pas tous, nous te serions à charge. Oh, » Ça m'a amusé. 3000 ans, il y a 3000 ans, hein. Ils sont pas changés, les parents, hein. Ils n'ont pas changé. Regardez ça. Oh non, allez, ça va te faire... La Bible est tellement réaliste. Hein? On se retrouve très bien là. Oh non, mon fils, je t'en prie, nous n'irons pas tous. Nous te serions à charge. Alors Absalom insiste. Mais le roi ne voulut pas y aller. Et il le bénit. C'est une façon de dire au revoir, on arrête là la conversation. Absalom dit, laisse au moins Amnon, mon frère, venir avec nous. Et là, j'ai l'impression que David, je ne sais pas pour vous, mais il est un peu inquiet. Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Oh là, là, David, il commence à sentir quelque chose. Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils du roi. Il prend ses précautions, toute la famille ensemble, parce qu'on ne sait jamais. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. « Regardez, je vous prie, quand Amnon aura le cœur content à cause du vin, et que je vous dirai « Frappez Amnon », alors vous le mettrez à mort. » N'ayez pas peur, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne, c'est-à-dire moi le prince. Hein. Soyez forts et vaillants. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Alors tous les fils du roi montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Je suis désolée, mais cette phrase m'a fait un peu rire. J'imaginais le spectacle sur les petits mulets, tous les princes là qui partent ventre à terre. Bon, voilà, c'est un peu Netflix là. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, cette nouvelle parvint à David. Absalom a tué tous les fils du roi. Alors, vous voyez comment ça se passe, ça n'a pas changé ça non plus. Hein. Il y a un gars qui est tué et les journalistes parlent de massacre généralisé. Bon. Et tant pis s'il y a des journalistes dans la salle, c'est pas grave. Voilà, ça n'a pas changé, hein. On a vite fait de multiplier les problèmes. Aïe, aïe, aïe. Le roi déchira ses vêtements et se coucha par terre, signe de grand deuil. Et tous les gens de la cour se tenaient là, les vêtements déchirés. C'est vraiment le deuil généralisé. Jonadab, tiens leur voile à lui, le cousin, qui est le mauvais conseiller. Fils de Shiméa, frère de David, dit, ne dis pas, mon seigneur, qu'on a mis à mort tous les fils du roi. Ah, ça, c'est lui, il revient aux vraies nouvelles. Amnon seul est mort. Cela, Absalom l'avait résolu depuis le jour où Amnon abusait de sa sœur Tamar. Ah bah tiens, lui, il était au courant. Maintenant, ô roi, mon seigneur, ne fais pas attention à ce qu'on t'a dit. Bon, ne lis pas la presse. Comme quoi, tous les fils du roi seraient morts, Amnon seul est mort.
Il est bizarre, moi, je trouve, ce conseiller. Hein. Il est au courant de tout. Monsieur Bons Offices, moi, il me fait peur. Mais bon. Absalom prit la fuite. Ah. Le guetteur leva les yeux et vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Et Jonadab dit au roi, « Ce sont les fils du roi qui arrivent. » C'est bien ce que je disais. Ah bah oui, il est content de lui, là. Comme il achevait de parler, les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à sangloter. Le roi et tous les gens de la cour pleurèrent abondamment. Absalom avait pris la fuite et était allé chez Talmaï, fils d'Aminoud, roi de Geshur. Autrement dit, il est parti chez son grand-père maternel. C'est au sud de la Syrie, si mes souvenirs sont bons. David portait tous les jours le deuil de son fils. Absalom, qui avait pris la fuite pour aller à Geshur, y resta 3 ans. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Alors, cette phrase a été l'objet de toutes sortes de difficultés de traduction. Bon, moi, j'ai gardé celle de la NBS. Mais je ne suis pas compétente pour gérer ça. Voilà. Donc, tous les fils de David sont là. Et Absalom avait préparé son coup. 2 ans après. Il faut le faire quand même. Hein. Faut vraiment avoir la haine au ventre pour garder une colère comme ça pendant 2 ans. Et puis, il trouve l'occasion, évidemment. Vous savez, en général, on a vu ça avec Abigail, vous vous souvenez, quand il y a la fête des tondeurs, c'est-à-dire que tous les tondeurs viennent tondre les moutons et on va revendre la laine, évidemment, aux tisserands, etc. Et c'est une grande, grande fête. Et on mange et on boit. C'est un petit peu comme les fêtes des vendanges hein, dans le sud de la France, je pense. On peut comparer un peu à ça. Et c'était l'occasion d'inviter les frères. Il avait bien médité son coup. Hein. 2 ans. Ça veut dire que la fête des tondeurs de l'année précédente, c'était peut-être pas... Il sentait pas que c'était prêt. Hein, il était malin. Hein. C'est un bon stratège. Et là, on voit que le temps n'atténue pas les mauvais sentiments. Hein, souvent, on dit « Ah, oh, mais avec le temps, ça va s'arranger. » Ah ouais ? Parfois, ça peut être vrai, mais en général, quand les blessures sont profondes, le temps n'arrange pas grand-chose. Il y a qu'une personne qui peut calmer la fureur, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut calmer la fureur. Il permet le pardon en invitant à la repentance. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Absalom est malin. Vous avez vu comment il marchande un peu avec le roi. J'invite toute la cour. Il sait bien que papa va dire oh non. Bon, on connaît les papas. David était un papa assez typique, là. Il sait que ce serait une lourde charge. Alors, il marchande. Bon, au moins, Amnon. Pourquoi Amnon ? Mais le roi finit en se disant, bon, tous les fils, là, ça va aller. Mais vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a conseillé à ses serviteurs d'attendre que Amnon ait bien bu, qu'il soit ivre. Un petit peu ivre. Ça vous rappelle rien ? Comment David avait fait avec Uri ? Il l'avait fait boire. Mais Uri ne s'était pas laissé faire. Donc il a dû trouver une autre stratégie. Aïe, aïe, aïe. David avait ouvert une porte avec Bathsheba et Uri. Il avait ouvert une porte. Absalom attend que Amnon soit bien ivre. Et puis il envoie ses gens le tuer. David avait utilisé un stratagème. Amnon avait utilisé un stratagème pour avoir Tamar. Et Absalom utilise un stratagème pour tuer Amnon. Voyez, ça fait mal. David avait vraiment ouvert une porte. Et la prophétie de Nathan se réalise. Alors tous les fils de David s'enfuient. On retrouve Jonadab, ça j'en ai parlé. Il s'est bien gardé de dire quand même que c'était ses conseils qui avaient amené le viol de Tamar. Hein. Moi je l'aime pas trop, moi Jonadab. Je trouve qu'il est un peu double. Hein. Il est monsieur bons offices avec David, monsieur conseiller avec Amnon. Ouais. Puis il est content de faire remarquer, je vous l'avais bien dit. Hein. Bon. Personnage étrange, assez intrigant, je trouve. Et très, très bien décrit par l'auteur. Hein. Les fils de David reviennent, ils pleurent avec le roi, c'est une grande scène de deuil. Et Absalom s'enfuit. Et là, c'est curieux, comme je vous dis souvent, c'est répété 3 fois, le mot fuite ou s'enfuir. 3 fois. Et il va y rester 3 ans. Alors, vous allez me dire, mais attendez, il n'y avait pas une loi dans l'Ancien Testament qui permettait aux meurtriers d'aller dans une ville de refuge? Ah oui, mais là, pas pour un meurtre délibéré et prémédité. C'était pour le cas où le meurtre était accidentel. Là, un meurtre prémédité, avec stratagème et tout. Il ne pouvait pas être protégé dans une ville de refuge. Pour échapper à la justice, il n'y avait plus que la fuite. Du coup,
C'est ça qui est terrible, c'est ce que David aurait dû faire avec Amnon. Retrancher du peuple. Exil. Ou le tuer, mais bon. Mais il le fait de lui-même. Il sait très bien, là, il risque sa peau. Il s'en va, il a tué son frère quand même. Avec le temps, David se trouve consolé de la mort d'Amnon, donc ça a pris quand même du temps. Et son ressentiment s'apaise. Et il va décider de ne plus rester sur la poursuite de David, d'Absalom. Et pour conclure, je voudrais lire un article qui m'a frappée dans Promesse. J'ai des exemplaires s'il y en a qui en veulent. Ça m'a frappée parce qu'il traite justement de David. Et il dit ceci, la patience de David tout au long de sa vie a été admirable. Je pense que si quelqu'un d'entre vous veut prêcher sur la patience de David, ce serait très bien. Et voilà ce qu'il dit, il s'agit de Étienne Lermeneau, que certains d'entre nous avons bien connu, qui a présidé le CNEF. J'aime beaucoup ce qu'il écrit là. Je suis édifiée par la patience dont a fait preuve David, et je l'admire pour cette qualité. Bon, non, je ne sais pas comment vous êtes, mais souvent on manque de patience, hein. Ça c'est vrai. Mais l'expérience m'a appris que toute qualité humaine, en raison du péché qui nous environne et nous colle à la peau, a aussi son revers. Et David n'échappe pas à la règle. Sa patience n'est pas dénuée d'ambiguïté. C'est-à-dire sa patience, elle a deux côtés. Elle va servir admirablement son dessein de réconciliateur de la nation divisée. Il aura été patient hein, pour que Judas, Benjamin se rejoignent aux autres États. Il a été formidable, il y a travaillé patiemment. Mais sa patience va desservir sa famille agitée. Sa patience est devenue faiblesse. Et voilà ce que conclut, ce sera aussi ma conclusion, Étienne Lermeneau. Soyons donc plus réalistes avec nous-mêmes et avec ceux qui collaborent avec nous. Aussi grandes soient-elles, nos qualités ne font pas de nous des anges. Sauf moi, évidemment. Qui a osé rire? Nous avons les défauts de nos qualités. Nous avons les défauts de nos qualités. Ça, c'est dur quand même. On est content d'avoir quelques qualités quand même. Mais penser qu'on a les défauts de nos qualités, ça vous assomme un peu, hein. Mais bon, c'est la vérité. Et nous pouvons céder à la tentation, quand bien même nous sommes loués et admirés pour notre piété. Le Seigneur, ce passage m'a fait beaucoup réfléchir. Le Seigneur donne des Barnabas à l'Église, qui sont doués pour encourager. Barnabas était un encourageur. Pour encourager des gens comme Saul de Tarse. Mais Saul de Tarse, le fonceur. On peut dire, hein, Paul, c'était un sacré fonceur. Hein. J'ai plus en tête le nombre de kilomètres qu'il a fait, mais je sais qu'à l'école, quand je faisais la culture biblique, on faisait calculer aux enfants le nombre de kilomètres qu'il avait fait à pied ou à dodane, ou parfois en bateau. C'est monstrueux, et, sachant que c'est un gars qui parlait 4 ou 5 langues. On faisait ça avec les enfants, et du coup, il pensait moins à la religion, mais il voyait un héros, vraiment quelqu'un qui se battait. Oui, un fonceur, c'est le mot. Mais le fonceur, notre Saul de Tarse, acceptera difficilement que Barnabas encourage Jean-Marc un peu plus tard. Oh, regardez ça dans Actes 15, 36-40. Il était content d'être encouragé par Barnabas, mais quand Barnabas va encourager Jean-Marc, il faut pourtant dans le service de Dieu des fils d'encouragement qui prennent le temps de remettre en selle les jeunes découragés. Mais il faut aussi des hommes au caractère entier qui osent défricher des terres nouvelles. Et j'aime bien les frères burette. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une burette. Mais c'est une petite sorte de petite pompe dans laquelle on met de l'huile. Et on se sert des burettes pour mettre une goutte d'huile dans les gonds des portes quand ils grincent, vous savez, ou dans des mécanismes qui grippent un peu. On se sert de cette petite burette. Ça fait une sorte de petite pompe métallique, hein, ce métallique. Et on met une petite goutte pour empêcher. Oui, ça peut être en plastique maintenant. Moi, j'ai connu, évidemment, nous, les dinosaures, on a connu les burettes en métal. Non. Alors, les frères burettes qui mêlent de l'huile dans les rouages. Il en faut. Mais de grâce, ne demandons pas aux personnes de jouer à contre-emploi. Le patient va parfois vous paraître faible. Le fonceur va vous paraître cassant. Et le réconciliateur, bien trop arrangeant. Mais Dieu les a appelés ainsi. et il agit avec leurs qualités et malgré leurs faiblesses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cela veut dire que le Seigneur nous utilise et nous sanctifie sans attendre notre perfection. C'est un beau texte, hein. Je pourrais vous l'imprimer si vous le souhaitez. C'est vraiment important pour conclure. La patience de David a été admirable pendant des années, quand il était poursuivi par Saül, quand il a été roi à Hébron, jusqu'à ce que toutes les tribus se joignent à lui. Il a été patient. Mais là, sa patience est devenue faiblesse. On est complètement dans l'humain. Et comment dire que la Bible n'est pas vraie, franchement? C'est tellement bien vu, tellement bien étudié, la vie de David. C'est tellement, l'humain est tellement bien vu. C'est notre miroir, c'est notre miroir. Absalom, lui, il va tabler sur les qualités manquantes de David, on va le voir par la suite. Il va tabler sur les défauts de David, existants ou imaginaires. Il va en rajouter, hein. On va le voir. Mais ça n'empêchera pas Dieu d'agir. Et c'est ça qui est formidable. Ça n'empêchera pas Dieu d'agir et d'accomplir sa volonté et de tenir ses promesses envers David. Vous vous souvenez ? Tu auras toujours un successeur, etc. Jusqu'au grand successeur Jésus qui nous sauve, le Messie. C'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. Tout ça, tous nos manquements, toutes nos faiblesses, les défauts de nos qualités. C'est dur quand même. Hein. Les défauts de nos qualités, tout ça, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Il est fort, hein? Ça ne l'empêche pas d'agir, d'agir avec nous, tout en tenant compte de nos limites, de nos faiblesses et même des défauts de nos qualités. Donc on peut se confier en lui. On peut se confier en lui. Ça ne l'empêchera pas d'exécuter ses promesses. Et David a eu des successeurs sur le trône. Son nom n'est pas effacé. Aujourd'hui en Israël, il y a encore ce qu'on appelle l'étoile de David. On parle de la ville de David. Enfin, voilà. Son nom n'est pas effacé. Après 3000 ans, rendez-vous compte. Les promesses de Dieu ont tenu. Et Jésus, vous souvenez de l'aveugle qui disait « Jésus, fils de David !» C'était 1000 ans après. Les promesses de Dieu, elles ne bougent pas. Malgré nos faiblesses, nos manquements, etc. Donc ne nous attardons pas sur tout ce qu'on a fait de travers, sur nos faiblesses, sur les défauts de nos qualités, etc. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de nous. Lui, il ne juge pas comme les humains. Et confions-nous dans sa bonté, dans sa miséricorde. Seigneur, merci. Merci parce que tes promesses sont oui et amen. Parce que Seigneur, ce ne sont pas toutes ces choses négatives qui t'ont empêché de réaliser ce que tu avais promis à David. Et de la même façon, si nous voulons bien nous repentir, nous savons que tes promesses se réaliseront dans tous les domaines de nos vies. Si nous nous tournons vers toi. Au lieu de faire comme Absalom et de nous appuyer sur notre propre sagesse. Seigneur, merci. Merci que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Tu es plein de miséricorde envers nous, tu es bienveillant envers nous. Tu pardonnes celui qui vient à toi. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour tes promesses qui se réalisent dans nos vies. Quels que soient les parcours, quels que soient les hauts et les bas, tes promesses se réalisent. Tu es un Dieu fidèle. Amen.